Philippe Métaphysique à Fribourg, le 3 mai 83, troisième cours.
Depuis la question, nous allons continuer de réfléchir sur ce que nous avions essayé ce matin de commencer comme réflexion. Alors, si la considération de la réalité en tant qu'être est fondamentale, et si s'adjoint à cette considération celle du mouvement, puis celle de la vie, enfin celle de la vie d'esprit, pourquoi ne considérions-nous pas le problème de la personne humaine à ce dernier niveau, celui de la vie de l'esprit, intelligence et volonté, plutôt qu'au terme de la métaphysique? Vous voyez la question. Doit-on traiter d'une anthropologie, si j'ai en définition de ça, de traiter de la personne humaine, avant la métaphysique? Bien, je dis non. On ne peut pas traiter du problème de la personne humaine au niveau de la vie. C'est assez simple de le comprendre. C'est que la vie peut se considérer de deux manières. Ou comme l'opération vitale suprême, au point de vue de l'immanence, la plus immanente. Mais à ce moment-là, je ne saisis pas encore ce qu'il y a de propre à l'esprit. Pour saisir ce qu'il y a de propre à l'esprit, il faut saisir ce qui caractérise l'esprit. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'esprit? C'est d'une part l'intelligence capable de saisir l'être, et d'autre part la volonté capable de saisir le bien. C'est ça qui caractérise. Or, au niveau de la vie, je ne l'ai dit pas. Je l'ai dit simplement le point de vue de l'immanence de l'opération vitale. Et je sais que cette opération vitale est la plus immanente. Vous voyez, je crois que la philosophie hegélienne, c'est intéressant à la regarder, la philosophie hegélienne ne saisit que l'aspect de la vie de l'esprit, c'est-à-dire l'immanence la plus parfaite. Il ne te dit pas ce que c'est que l'esprit. C'est là où on devrait, on faisait une critique de Hegel, montrer que de fait, il ne te dit pas vraiment ce que c'est que l'esprit. Alors évidemment, si c'est énorme comme question, hein, ça présuppose, si vous voulez, qu'apporte la métaphysique, la philosophie première, par rapport à la philosophie du monde. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Alors, ça apporte cette considération ultime sur la réalité. Que de fait, l'expérience de la vie n'est pas utile. Pourquoi? Pourquoi l'expérience de la vie n'est pas utile? Vous posez la question, ça va après tout. C'est tellement plus intéressant que l'expérience de la vie soit utile. Moi, j'aimerais beaucoup. Tellement plus séduisant. Regardez la philosophie du vivant comme la philosophie première. C'est bête dans un sens. La philosophie du vivant me donne l'ultime considération. Qu'est-ce qui est l'opposé de la vie? C'est la mort. Hein? Est-ce que la mort implique une néantisation? Si la vie est ultime, la mort implique une néantisation. Bien. L'opposé de la vie, tout le monde est d'accord, c'est la mort. Hein. Trois. On vous coupe la tête, ça veut dire que la vie, après vous discuterez. Déjà, bon, ça montre bien que ce qui est ultime dans la vie, c'est la mort. C'est l'opposé de la vie. Or, de fait, quand un être vivant meurt, je parle d'un homme, il n'y a pas de béantisation. Il reste un cadavre. Qui ne répond pas. Et il reste, je ne vois pas, c'est aussi là. Alors, y a-t-il quelque chose? Alors, vous voyez, là, les traditions religieuses me posent le problème de l'immortalité de l'âme. Y a-t-il, oui ou non, l'immortalité de l'âme? C'est quand même un problème philosophique. Or, la philosophie de la vie ne peut pas répondre. Impossible. La philosophie de la vie ne peut pas répondre sur l'immortalité de l'âme. Alors, il s'agit d'essayer de comprendre s'il y a immortalité ou pas immortalité. C'est quand même une question importante. Et une question qui touche la personne humaine, vous comprenez. Parce que tant que je n'ai pas résolu le problème de l'immortalité de l'âme, je ne résous pas le problème de la personne humaine. Tout est changé pour moi, comme personne humaine, si mon âme est immortelle, c'est quoi mon problème. Tout est changé. J'ai une vision totalement différente de l'univers. J'ai une vision totalement différente sur mon bonheur aussi. Vous voyez, c'est pour ça que je ne peux pas rester en face de la philosophie du vivant. La philosophie du vivant est très importante, c'est bien évident, mais elle n'est pas ultime. Il y a des problèmes fondamentaux que je ne résous pas. Je ne peux pas résoudre par la philosophie du vivant si, de fait, il existe un être premier ou pas. Ce que les traditions de Dieu nous disent. Je dois savoir, au point de vue philosophique, si je peux oui ou non. Et c'est là où je suis obligé de regarder le point de vue métaphysique. Je vous ai dit, si vous restez à un niveau uniquement de philosophie du vivant, et que vous terminez à la philosophie du vivant votre anthropologie, vous ne dépassez pas beaucoup de Kant. Vous êtes conscient. C'est dommage, après Nietzsche. Parce que c'est vrai. Nietzsche est quand même intelligent, il est démoli Kant. Je me sers de Nietzsche pour démolir Kant, c'est évident. Et démolir Kant, mais qui bombe en tout Kant, c'est pas si mal. Alors Nietzsche fait ça, il démolit Kant, il montre que Kant, ça ne tient pas. Et c'est vrai que ça ne tient pas, ça ne peut pas tenir. Autre jour, j'ai entendu une conférence à Paris par un polytechnicien qui montrait que les mathématiques modernes montraient que Kant a une idée de l'éducation. Je ne sais pas si son raisonnement était tout à fait apolitique, ça je vais faire, mais c'était intéressant de voir ce que l'attaque qu'il prenait en disant Kant, non, il reste à mi-chemin. C'est vrai, Kant reste à mi-chemin, beaucoup trop bourgeois. Il reste à mi-chemin, il ne va pas jusqu'au bout. C'est souvent comme ça, les gens qui veulent être critiques, ordinairement sont naïfs. Parce qu'il faut être positif pour être critique. Si vous êtes critique uniquement pour la critique, vous êtes naïf. C'est comme celui qui s'oppose uniquement pour le plaisir de s'opposer, qui est anti. L'anti, par définition, est naïf. Parce qu'il ne voit qu'un seul contre qui il est. Il ne se voit plus. Donc il est naïf. Et il faut se voir pour être lucide. Alors il faut essayer de comprendre que la philosophie de la vie, elle est limitée. Les questions principales par rapport à la personne humaine ne peuvent pas se dire. Et alors plus profondément, plus radicalement, je dis la question de l'esprit. Je ne peux pas savoir ce que c'est que l'esprit par la vie. Ça c'est intéressant. Parce que l'esprit, c'est bien la vie, hein, c'est bien la vie, mais c'est la vie dans ce qu'elle a d'ultime. Et l'esprit s'impose à la vie comme quelque chose qui va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, parce que la vie est immanente, et l'esprit, il peut saisir ce qui transcende. C'est pas la vie qui saisit la transcendance. La seule transcendance que la vie peut saisir, c'est la durée dans l'immanence. C'est une sorte de transcendance. Mais ce n'est pas la vraie transcendance. C'est une sorte de transcendance. Ça, c'est vrai. La vie peut, et elle demande de durée. Je ne dis pas qu'elle demande d'être immortelle, elle demande de durée. La vie réclame la durée, comme telle. Donc, elle saisit quelque chose de transcendant à l'intérieur de l'immanence. C'est de durée. C'est vrai, le vivant demande de durer. C'est la seule désir qu'il a. Interroger le vivant, on verrait bien, c'est dur. On voit, c'est dur d'être survie. Mais ça reste dans l'immanence, tandis que l'esprit va beaucoup plus loin. Et alors ça, c'est l'esprit par rapport à l'être. Et c'est là, on voit, la nécessité de poser une philosophie première. On comprend très bien les grandes attaques contre la philosophie première et la philosophie. C'est très, très normal de comprendre ces attaques. Parce qu'au fond, c'est maintenir, si vous voulez, la personne humaine dans un absolu. vous ne pouvez pas maintenir l'absolu de la personne une fois que vous l'êtes. La vie comme telle, elle n'est pas sacrée. Je me souviens, c'était la réaction violente de notre du cher professeur Marois, qui lui, avec l'Institut de la vie, il préfère que la vie soit sacrée. Alors, il était venu de Genève, il avait dit, j'ai vu le comité œcuménique de Genève, le conseil œcuménique de Genève, et puis là j'avais vu, je ne sais plus trop quel pasteur, et quand je lui ai dit que la vie est sacrée, il m'a dit, ah bon, la vie n'est pas sacrée. Alors il m'a scandalisé. Il m'a dit, mais moi, pour moi non plus, la vie n'est pas sacrée. Alors ça, le second scandale. Je lui ai dit, c'est l'esprit qui est sacré. C'est pas elle. La fois, c'est de manger du pain tous les jours. C'est que la vache n'est pas sacrée. Si la vie était sacrée, la vache serait sacrée. L'araignée serait sacrée. Alors, je ne sais pas ce que vous feriez, parce que vous écrasez pas mal.
Les animaux qui vivent là, tous les jours,
vous
écrasez pas mal.
Alors, vous êtes donc toujours dans un état de...
Vraiment, ça criège, hein.
Ça va pas, mais qu'est-ce qui va pas? La vie n'est pas sacrée, comme l'être n'est pas sacré. Il faut bien comprendre ça. Qu'est-ce qui est sacré? C'est l'esprit. Parce que l'esprit peut remonter immédiatement vis-à-vis de Dieu. Je respecte l'être, je respecte la vie. C'est sûr, je respecte la vie. Je n'ai pas le droit de détruire pour le plaisir de détruire. Ah non, absolument pas. Mais ça, c'est le respect, c'est pas la même chose du tout. On respecte l'autre, tout simplement. On le respecte parce qu'il est autre que moi. Et donc il a un droit sacré à la vie. C'est tout à fait. Pas sacré, hein, un droit. Pas sacré. Si c'était sacré, ce serait trop. Bon, alors, je relis pour que vous voyez bien cette petite objection. Si la considération de la réalité en tant qu'être est fondamentale, et si ça joint à cette considération, celle du mouvement, puis celle de la vie, enfin celle de la vie de l'esprit, pourquoi ne considérons-nous pas le problème de la personne humaine à ce dernier niveau, celui de la vie de l'esprit, intelligence et volonté, plutôt qu'au terme de la métaphysique? J'espère que vous comprenez. Si c'est au terme de la philosophie du vivant, je ne peux regarder que l'opération vitale de l'intelligence et de la volonté. Et en regardant l'opération vitale de l'intelligence et de la volonté, je reste dans l'immanence. Et je ne peux pas finir l'absolu de la personne. Le vivant a une certaine autonomie à l'intérieur de l'immanence, à l'intérieur de l'espèce. L'autonomie de l'araignée, c'est à l'intérieur de l'espèce araignée. Et ce n'est pas individuel. L'araignée comme telle n'a aucune autonomie. Mais à l'intérieur de l'espèce araignée, elle a une certaine autonomie. Mais uniquement à l'intérieur de l'espèce araignée. Elle n'a pas d'autonomie individuelle. Tandis que l'homme est une personne individuelle qui a une autonomie dans son être individuel. C'est toute la différence entre le vivant et la personne humaine. Et ça, c'est très important pour un point de vue philosophique. C'est un capital. Et c'est pour ça que c'est important de saisir la personne humaine au terme de la métaphysique. Je ne peux pas la saisir autrement. Alors, le problème que je vous ai posé ce matin, c'était le problème de savoir si au terme de la métaphysique, je reprends et puis nous allons continuer, si au terme de la métaphysique, il y a comme deux branches de la métaphysique, je dis bien deux branches de la métaphysique, je suis à la philosophie première, se termine dans la considération de la personne. Le pauvre, je vous dis le pauvre, je saisis la personne comme quelque chose de tout à fait concret, et puis je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas, à partir de là, une philosophie de l'homme, ou de la personne, disons, c'est-à-dire de l'homme, et une philosophie de Dieu, c'est-à-dire une théologie. D'une façon habituelle, on dit que la philosophie première s'achève en théologie, c'est-à-dire la considération de l'être premier. Que nous avons vu. Et je vous ai dit ce matin que la théologie, à la différence de la philosophie première, elle est stagiaire.
que la théologie, à la différence de la philosophie première, n'implique pas d'analyse.
Elle est contemplative.
Et elle n'étudie que le fond de l'être premier. De l'être premier, je ne peux étudier que le pauvre. Autrement dit, je ne peux pas saisir un nouveau principe. Toute la question est là. Mais donc, la théologie n'est pas, au sens strict, une nouvelle science. La théologie naturelle, hein, c'est pas la théologie tout simplement, la théologie tout court. Hein. La théologie tout court n'est pas une science qui a une autonomie. Elle est totalement dépendante de la philosophie première. C'est la philosophie première qui est scientifique, qui est une science. Parce qu'elle implique une analyse et la découverte de principes propres. Tandis que la théologie, elle, est le prolongement, un prolongement extrêmement intéressant, un prolongement très intéressant, parce que ça montre l'importance de la philosophie première. Pour l'homme, pour la personne humaine, parce que ça me montre que s'il existe un être premier, s'il existe Dieu, j'ai à partir de là un nouveau regard sur la réalité la plus parfaite que je peux saisir, l'homme. J'ai à partir de là, si vous voulez, un jugement de sagesse. Et la philosophie se termine dans un jugement de sagesse par rapport à l'homme. Et là, je suis tout à fait d'accord, il y a un nouveau jugement de sagesse par rapport à l'homme. Je vois l'homme comme créature, je vois l'homme comme un être religieux, l'homme est naturellement religieux, comme un être capable d'adorer, comme un être capable... C'est très intéressant, hein. C'est la reprise de tout, mais par rapport à l'homme, et l'homme par rapport à l'univers. Et je me pose la question de l'origine de l'homme, je me pose la question des fins de l'homme. Est-ce que je peux dire quelque chose de l'origine de l'homme? Est-ce que je peux dire quelque chose de la fin de l'homme? La fin de notre univers, je jure. Hein. Qu'est-ce qui arrive après la mort, quoi? Philosophiquement parlant. Bon, qu'est-ce qui arrive après la mort? C'est divisible, parce que je n'en ai pas l'expérience. Alors, j'ai toujours une expérience médiatisée, c'est toujours très difficile l'expérience médiatisée. Quelqu'un qui était tout proche de la mort me raconte des choses extraordinaires qu'il a vues à ce moment-là. Qu'est-ce que ça représente ? C'est très difficile, parce que c'est une expérience de l'autre. Hein. Très difficile. Parce qu'il faut quand même être un peu critique. Tant que mon expérience solide, les autres croient, on ne croit pas. Mais l'étant l'expérience de l'autre, moi je reçois comme une opinion. Je n'ai pas l'expérience de l'après-mort. Ça arrangerait pas mal de choses. Hein. Moi, si j'ai l'expérience de l'après-mort, ça arrangerait pas mal de choses, je crois que c'est ça. Au terme des années philosophiques, on serait bon pour l'expérience de la mort. Et on ferait cette expérience, c'est un autre genre d'examen. Et on ferait l'expérience de la mort, et à ce moment-là, on se retrouverait en personne qui philosopherait sur l'expérience que nous avons eue après la mort. On ferait une philosophie particulière de ce que représente l'après-mort. C'est très intéressant. C'est extraordinaire. Ne serait admis à ce cours que ceux qui ont fait des expériences. Les autres, non. Alors, on aura un cours d'initiation par rapport à tous ceux qui ont fait. Et alors, on pourrait parler des fallait dire de l'homme. Mais qu'est-ce qui existe après ? Alors, je ne peux pas philosophiquement. Alors, je peux écouter les mythes. Je peux écouter les mythes. Les philosophes ont dit des mythes. Platon a dit un mythe là-dessus, extraordinairement intéressant. Alors, est-ce que je peux ? Quelle est la valeur de cela? Exactement comme pour l'origine, vous voyez. Pour l'origine, c'est peut-être plus facile. Pour l'après, c'est plus difficile. Il faut des deux côtés. Je vois que la philosophie, dans une vision de sagesse, est enveloppée de deux mythes. Le mythe de l'origine, le mythe de la fin. Vous voyez, je récupère dans une vision de sagesse les mythes. Je vois que, de fait, les traditions religieuses vont plus loin que la philosophie. Il y a un livre rendu à l'Américain qui vient de paraître dans le médecin américain, là où Thomas, qui est très intéressant, qui dit « La science est à courte vision, la poésie est à long terme. » Ça rejoint l'idée d'Aristote, c'est très très intéressant, que le philosophe doit écouter plus ses poètes que les savants, plus à long terme. Et c'est vrai, les poètes sont à long terme, ils parlent du terme, de l'eschaton. Ils parlent de l'eschatologie, de ce qui arrive au terme. Les philosophes, c'est intéressant de savoir ce qui arrive au terme. C'est intéressant. Hein? Plus on approche du terme, plus c'est intéressant. Hein? C'est évident. Le coucher de soleil, c'est très intéressant. Comment ça va se faire sur notre univers, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Philosophiquement parlant, scientifiquement, rien du tout. Poétiquement, il y a toujours une limite. Parce qu'il y a une nostalgie profonde que nous portons en nous. Alors ça, c'est la vision de sagesse, vous voyez. Et ça, ce serait très intéressant pour nous de bien développer cette vision de sagesse. Parce que ça montrerait, vous voyez, toute l'aspect de la fécondité d'une philosophie première. C'est la philosophie première qui doit aboutir à ça. Et je ne peux dire que c'est une philosophie première, autrement je ne dis rien du tout. Si je n'ai pas de philosophie première, je tomberai très vite dans un positivisme philosophique. Qu'est-ce qui garantit pour moi le positivisme philosophique? C'est la philosophie première. Parce qu'elle sauve l'esprit. Et qu'est-ce qui tue l'esprit? C'est le positivisme. C'est le positivisme qui tue l'esprit. Alors ça, la philosophie première sauve l'esprit. Et l'esprit, mais il y a l'esprit du poète. Il y a l'esprit de l'âme religieuse. Et l'esprit du poète et l'âme religieuse va plus loin que le philosophe. Il devance le philosophe. Ça, c'est toujours très important pour comprendre toute la dimension de la personne humaine. Ça fait partie de la personne humaine. Ça fait partie de la personne humaine d'être poète. Une personne humaine, elle a quelque chose de poétique en elle. Et c'est plus proche de la personne humaine, le point de vue poétique, que le point de vue scientifique. Et ça, ça peut se sauvegarder dans une vision de la vie. Ça, c'est très important. Donc, alors, nous revenons à notre problème, après avoir fait cette petite phrase. Mais c'est intéressant de voir que c'est un médecin qui dit ça, un grand médecin. C'est intéressant de voir qu'un médecin dit ça aujourd'hui. Et c'est reconnu comme quand même quelqu'un, on n'ose pas s'opposer à lui, hein. On écoute, on y a, c'est sa vision à lui. Alors, je regarde ici, philosophie de la personne. Hein. Alors, après avoir lu, la personne comme le pauvre, hein. Alors, est-ce que de fait, une partie de la philosophie nouvelle, je dis bien nouvelle, qui doit être la philosophie de la personne. Irréductible, hein, c'est ça qui m'intéresse, irréductible à la philosophie du vivant, à la philosophie de la matière. Irréductible à l'éthique, à la philosophie du factuel, à la philosophie politique. Puisque ces cinq parties de la philosophie sont antérieures à la philosophie première. Tandis que celle-ci viendrait après la philosophie première. Alors, y a-t-il une nouvelle partie de la philosophie? Pour qu'il y ait une nouvelle partie de la philosophie, il faut qu'il y ait un principe propre. S'il n'y a pas de principe propre, il n'y a pas de nouvelle partie de la philosophie. Ce serait simplement en face d'un faux. Et le faux, il est ici. Donc, je dirais, c'est mal. Donc, il n'y aurait pas une philosophie de la personne. La seule découverte qui serait au terme, ce serait la théologie, parce qu'il y avait la personne de l'être premier dont je n'ai pas encore parlé. Oui. Alors, toute la question est de savoir si je peux me contenter de ce pont, philosophiquement, ou si je dois aller plus loin pour découvrir une philosophie de la personne. En découvrant un principe propre, s'il y a un principe propre, il y a quelque chose de nouveau.
Et donc il y a une partie de philosophie. Vous voyez ? Il faut se poser le problème. C'est important. C'est important de se poser le problème. Et c'est toute la question de savoir
si avant du temps ou pas.
Alors, ça c'était ce que je vous dis, premier cours de ce matin, hein, pour vous rappeler, pour vous remettre dedans. Hein. Post-chiboum, on ne peut pas de philosophie, c'est plus difficile. Bon, l'après-midi, c'est plus difficile. Alors, on va reprendre ce que je vous disais au dernier cours, parce que je crois que c'est important de saisir ce pôle. Vous voyez bien où je me situe, hein. Je saisis ce pôle. Au terme de la philosophie première, je dis que je découvre le principe propre de la philosophie première, et je me pose la question, comment ces principes propres se trouve réalisé dans la réalité la plus parfaite que je connais, la personne humaine. L'homme. C'est dans l'homme que je découvre le mieux ce que c'est qu'un substance. Je dis par là, je sauvegarde l'autonomie de la personne humaine. Très bien. Et cette autonomie repose sur l'âme. Très bien. Première partie. Deuxième partie, je dis cette substance et cette âme qui implique un corps, qui implique une individuation, l'individu. Donc, c'est pas du concret, hein, que je suis en face du pot. Le pot, c'est toujours concret, le comment. Je me pose ici la question, cette substance, cette âme spirituelle, elle se développe par le point de vue de la substance spirituelle. L'appétit spirituel, c'est la volonté, qui tend vers le bien. C'est vrai, mais c'est une chose tout à fait particulière que la personne humaine est capable d'être attirée par le bien. Elle est capable d'aimer spirituellement. Et je dois là essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cet amour spirituel. Et je peux faire, à partir de là, une certaine métaphysique du bien. Et une certaine métaphysique de l'amour. Je suis au niveau métaphysique. Alors ça, c'est vrai que la personne humaine implique cela. Je ne peux pas comprendre parfaitement ce que c'est que l'homme, comme personne humaine, si je ne vois pas cette métaphysique du bien et cette métaphysique de l'amour. Là, il y a tout un développement qui est très beau, qui est très intéressant. C'est intéressant quand même de faire la métaphysique de l'amour et d'essayer de comprendre ce que c'est que le bien. Et là, je découvre comment la personne humaine, par son âme spirituelle, est capable de se dépasser. Tout le sentiment de valorisation dont parle Psychologue, s'enracine dans un dépassement. Vous la valorisez dans la mesure où vous vous dépassez. Ça, le psychologue ne veut pas dire, mais le philosophe le dit tout de suite. C'est en se dépassant qu'on se valorise. Dès que je me dépasse, je me valorise. Donc, dès que je suis en rencontre réelle et profonde à l'égard d'un bien spirituel, d'une personne. Rencontrer une personne me valorise. Ça, c'est vrai. Regardez l'évangile de Saint Jean, c'est l'évangile des rencontres personnelles. Il a compris à la fin de sa vie qu'est-ce qu'il valorisait. À la fin de notre vie, nous verrons qu'est-ce qui nous a valorisé. Ce sont les rencontres personnelles. Tout le reste des grands volants, on a fait, on mange, c'est du fracheré. On a écrit beaucoup de bouquins comme bouquins, sur son importance. Ce qui est important, c'est les rencontres personnelles. Si dans sa vie, on a eu telle ou telle rencontre personnelle, c'est ça qui donne l'aspect le plus spirituel de la personne humaine. Et ça m'a toujours beaucoup frappé. Beaucoup frappé. Quand on a connu des vieillards, qui sont des grands vieillards, qui sont des vieillards très lucides et qui ont eu une vraie personnalité humaine, on voit très bien qu'au terme de leur vie, qu'est-ce qui compte, c'est les rencontres personnelles. Ça, c'est très extraordinaire. Bien, ça, c'est ça. C'est ce que le philosophe reconnaît, que par l'esprit, je suis capable de rencontrer
un bien spirituel. Et que je considère comme mon bien. Parce que vous ne rencontrez une personne qu'autant vous la considérez comme votre bien. Quand vous la considérez uniquement au niveau démocratique, c'est pas votre bien. Vous l'utilisez. Tandis que quand vous la rencontrez vraiment comme votre bien, c'est autre chose. C'est quelque chose qui vous transcende. C'est quelque chose qui vous dépasse. Vous avez cette notion. Et la personne humaine implique l'autonomie. L'autonomie est justice. L'autonomie fondamentale qui fait que je suis un certain absolu. Parce que ma substance au niveau de l'être atteint marqué, je suis de l'absolu. J'ai quelque chose en moi d'absolu. J'ai quelque chose en moi d'absolu, parce que j'ai quelque chose en moi d'absolu, au point de vue de la substance, et que cette substance est une substance spirituelle, elle est capable de s'ouvrir à l'autre. Elle est capable d'accueillir un autre en étant attirée par lui. Puisque je m'accueille quelqu'un, c'est dans la mesure où je suis attiré par lui. Impossible d'être accueillant sans être attiré. Ça va très loin. C'est très important. Vous ne pouvez pas être accueillant vis-à-vis d'une autre personne si vous n'êtes pas attiré par lui. C'est-à-dire si cette personne n'est pas votre bien. Si c'est votre bien, alors vous êtes attiré, vous vous dépassez, et dans la mesure où vous dépassez, vous êtes accueillant. C'est vrai, ça. Dans la mesure où vous êtes autonome, vous n'êtes pas accueillant du tout. C'est autonome. Et vous êtes retourné sur vous-même, vous savez, vous êtes très bien en vous-même. Et quand vous avez une autonomie farouche, et que vous la gardez, tandis que dans la mesure où vous vous dépassez, et le dépassement vous rend fragile à ce moment. Notre fragilité, notre précarité, nous la saisissons à la mesure où nous dépassons. Tant que nous ne dépassons pas, nous ne sentons pas du tout notre précarité. Nous ne sentons absolument pas notre fragilité. Nous pensons que nous voulons conquérir le monde. Dès qu'il y a un dépassement, c'est dans ce sens-là que l'amour nous rend fragiles et accueillants. Donc c'est tout de suite cette domination. Ça, c'est très important parce que ça montre le fondement métaphysique du sentiment de valorisation. Le sentiment de valorisation, au point de vue psychologique, est très vrai. Mais il faut dépasser ça en psychologie pour le saisir au niveau philosophique. Et dès que je le saisis au niveau philosophique, je le saisis justement comme cette capacité de dépassement. J'ai en moi une capacité de dépassement. C'est extraordinaire. En aimant. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est se dépasser. Se rejoindre l'autre, c'est l'autre. Alors dès que j'aime, rejoins l'autre. Je suis capable de rejoindre l'autre, et en le rejoignant, je suis capable de le recevoir. Troisième dimension, le point de vue du vrai. Je vous ai dit ce matin en terminant, c'est bon d'y revenir, parce que c'était quelque chose de tellement difficile et tellement subtil, ces choses-là, que c'est important d'y revenir ici. Au fond, ici, je suis en présence de la personne finalisée. La personne ne peut être finalisée que par le bien. C'est-à-dire par une autre personne, par le bien spirituel d'une autre personne. Une autre personne est capable de finaliser d'autres personnes. Alors, je suis finalisé, et c'est la personne qui est finalisée. C'est la personne qui se dépasse. Par le point de vue de l'intelligence, l'esprit. L'esprit intelligent. Le nous. L'intelligence au sens très précis du mot. Demeure dans l'immanence. Un intellectuel pur ne se dépasse jamais. C'est beau.
Ça fait terrible, ça. Ça fait terrible, ça. Il n'y a pas besoin. Pour toi. C'est l'intelligence dans son immanence. On va dire le jugement d'existence. Oui, les jugements d'existence, c'est la limite Augustin, qui l'a dit, et jument d'existence, c'est très très vrai, c'est très important, moi, je m'appuie sur le roc, mais je ne reste pas très longtemps. Hein. Et qui parle de jugement d'existence, hein. Je ne reste pas très longtemps, il s'est dit le roc. Lui, l'intellectuel, c'est bien, tout, c'est savoir si le roc loge, bien établi, vous savez, a été rendu des façons, et puis elle a dit maintenant. Vous voyez, on ne va pas y revenir trop longtemps, parce que je ne lui dis rien du tout de ça, c'est mon grand jugement d'existence. Je m'appuie là-dessus, c'est vrai, c'est un certain placement, c'est l'autre, je dis, c'est l'autre. Mais c'est l'autre en même temps qui est ma mesure, donc que je ne saisis pas, qui me transcende. Et très très vite, je l'abandonne. Et je vis ce qui est capable d'être assimilé. C'est la vérité, c'est la perception de l'intelligence. La vérité formelle, c'est pas le vrai. C'est pas le roc qui est la perception de l'intelligence. La perception de l'intelligence, c'est le bien. C'est la fiction. C'est le bien qui est la perception de ma volonté. Tandis que c'est pas l'Europe qui est la perfection de l'intelligence, mais non, pas du tout. La perfection de l'intelligence, c'est la vérité formelle que je possède. Ah oui, ça, je possède, c'est mon avoir. Un intellectuel, hein, ben, c'est ça l'avoir. Je vais l'admirer. Tandis que celui qui aime l'intelligence, jamais. Jamais. Il est accueillant. Parce qu'il aime. Tandis qu'un intellectuel, il vit toujours. Parce qu'il est riche. Il a la loi très grande, la loi de son intelligence. Il a une certaine vérité en lui. Et le sait, c'est mieux. Il sait ça. Il sait qu'il y a en lui cette richesse. Il sait qu'il y a en lui cette perfection. Et la vérité formelle qui se passe dans lui. Elle est immanente, cette vérité. Elle est en lui. Elle n'est pas en dehors de lui. Cette vérité formelle, elle demande d'être confronté vis-à-vis du réel, mais en tant que vérité formelle, il la possède. Tandis qu'au contraire, l'amour, je ne possède jamais le bien. Je suis mendiant du bien. Je cours après. Ou je me laisse attirer par lui. C'est encore mieux. Vous voyez, je me laisse attirer par lui. Je me laisse prendre par lui. Tandis que s'il s'agit du vrai ontologie, du vrai, j'ai été. Alors, il faut comprendre que la vérité formelle n'est pas ce qui finalise la personne humaine, mais c'est ce qui finalise son esprit, son nous, son intelligence, son esprit en tant qu'intelligence. Et donc, ça ne finalise pas vraiment la personne humaine. Mais c'est une condition nécessaire pour que la personne humaine soit finalisée par le Dieu. Autrement dit, la capacité que j'ai de saisir le vrai, la capacité que j'ai de saisir le vrai, est gardienne, la capacité gardienne de la finalisation. Saisir la vérité, être dans la vérité, me libère et me permet de vivre. C'est déjà très beau. Hein. Si la philosophie permet ça, c'est extraordinaire. Hein. Elle me libère parce qu'elle me donne une très grande lucidité. Et elle me fait comprendre que le bien est toujours au-delà de moi, et qu'il n'est pas en moi. Elle me fait comprendre ça. Alors, troisième dimension de la personne humaine, le point de vue de la sécurité. Ce qui fonde le sentiment de sécurité, c'est dans la mesure où je possède la vérité. Or, la vérité n'est parfaite qu'en métaphysique. Donc, seule la métaphysique, seule la métaphysique est vraiment gardienne de la vie.
C'est comme ça qu'on devrait dire. Cause de métaphysique est gardienne de la vie. Dans la chanson extraordinaire. Et le jour où il n'y a plus de métaphysique, il n'y a plus de gardien de la vie. Une métaphysique, c'est vrai, parce que la vérité
parfaite. La vérité parfaite est au niveau de la philosophie première. C'est là où j'ai le jugement de l'existence, je suis en face du monde. Et le jugement d'existence devient quelque chose de très très long, puisque le jugement d'existence me permet d'avoir cette vérité formelle. Vous voyez ? On s'efface toujours. Ça permet d'avoir cette vérité. Et cette vérité formelle ouvre mon esprit à l'attraction du bien. Par la vérité, je deviens capable d'être attiré par le bien. La vérité ne me donne pas l'attraction du bien, mais elle me rend capable d'être attiré par le bien. Pourquoi ? Parce qu'elle purifie en moi radicalement mon esprit. C'est la purification radicale de l'esprit. Purification active. C'est évident, il peut y avoir d'autres purifications, c'est bien évident. Si je suis chrétien, je peux dire qu'il y a d'autres purifications. Il y a des purifications passives de l'Esprit Saint qui vont encore plus vite. Mais je reconnais qu'il y a une purification active qui est indispensable, qui est cette purification par chaque de l'Esprit, qui ouvre l'esprit à l'esprit. Vous voyez, je retrouve donc les trois grandes dimensions. Et je vous disais en terminant qu'il fallait découvrir alors comment cette personne humaine, dans sa structure de ces trois, cette personne humaine implique le point de vue de l'opération vitale et du point de vue du mouvement. Dernier point, alors nous allons toucher le point vulnérable, et on va revenir à cette question au dernier cours. Le point vulnérable, c'est que c'est très bien, je vois tout ça, qu'est-ce que c'est que l'unité ? La personne réclame l'unité. Une personne n'est une personne que dans la mesure où elle est une. Une personne qui reste dans la complexité et la multiplicité, ne possédant pas d'unité suffisamment en a, c'est le drame intérieur. Je suis divisé. Je suis divisé en moi. Il y a la recherche de la vérité d'un côté, et puis il y a l'amour de l'autre côté. Il y a mon autonomie, il y a la communication, il y a l'accueil, il y a la solitude. Je suis divisé. Alors, j'essaie de vous faire aider le mieux possible un équilibre. Mais l'équilibre n'est jamais l'unité. L'équilibre, c'est quelque chose de momentané. C'est très bon pour apaiser les drames. Mais l'équilibre ne donne pas la solution. Aucune solution vient d'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre ? Une personne est équilibrée. L'équilibre est vraie relativement à quelqu'un d'autre qui se considère comme sa propre mesure, la propre mesure de cette personne. Elle est équilibrée parce qu'elle est bien en harmonie avec moi. Donc elle est équilibrée. Quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec moi, il est équilibré. Dites plutôt, il n'est pas en harmonie avec vous. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que l'équilibre ? Vous avez déjà vu l'homme en soi équilibré ? Non, ça n'existe pas. C'est extraordinaire, ça. L'équilibre. L'équilibre entre l'autonomie, la finalité, et puis le point de vue de la recherche de la vérité. Comme on dit. Nous sommes dans un devenir. Alors, équilibre. Je suis dans l'ordre qualitatif. L'équilibre est dans l'ordre quantitatif. Les deux, la bascule, est équilibrée, vous savez ? Quand vous pesez une lettre sur une balance, c'est équilibré quand vous mettez le même poids d'un côté et l'autre poids de l'autre. Ah, c'est équilibré, c'est parfait. C'est équilibré. Ça passera pour l'instant avec le temps qui vient. Alors, c'est équilibré. L'équilibre, c'est quantitatif. L'harmonie est qualitative. Il faut être un être harmonieux. Ça, c'est vrai, la personne est un être harmonieux. Elle n'est pas équilibrée. Elle n'a rien à voir avec la personne. Vous allez voir tout simplement, vous pesez 150 kilos, et vous allez avec ceux de 150 kilos qui seraient équilibrés avec eux. Et comme ils sont rares, alors vous êtes effectivement unis dans votre genre, n'est-ce pas ? Mais comme vous pesez un poids normal, moyen, vous trouvez équilibré, il y en a qui pèsent un peu plus que vous, un peu moins que vous, ça va, on s'entend. Bon, donc c'est du côté quantitatif, l'équilibre. Tandis que l'harmonie, c'est l'unité. Alors il faut l'unité de la personne, l'harmonie à l'intérieur de soi. Il y a une harmonie, il y a une unité de la personne humaine.
Mais la personne humaine sait très bien qu'il y a des ressources. Elle peut progresser. Elle peut progresser.
Et une personne humaine n'est en harmonie que dans la mesure où elle reste, où elle laisse ouvert ce progrès. Une personne humaine qui arrête le progrès n'est plus en harmonie.
Puisque de fait,
le point de vue de l'amour et le point de vue de l'intelligence n'ont pas de limite. Alors, vous plafonnez quand vous revenez à l'autonomie. C'est un repliement sur soi. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de progrès. Il y a un progrès dans la personne humaine. Je suis de plus en plus une personne humaine. J'en ai de plus en plus la lucidité. Et je sais que plus j'avance dans l'ordre de l'amour et plus j'avance dans l'ordre de la vérité, plus mon autonomie est grande. Et plus je suis dépendant. Et plus je suis dans l'harmonie. Alors il y a un gros problème de l'unité de la personne. Et vous voyez, c'est à partir de là, reposer le problème, y a-t-il un principe propre d'unité de la personne? C'est l'unité, c'est toujours toute induction se fait par l'unité. Or, s'il y a un principe propre, il faut l'induire. Je ne peux pas saisir un principe propre autrement que par l'induction. Impossible autrement. Pas saisir un principe propre en dehors de l'induction. Autrement, alors je ne serais plus en face d'un principe propre. Je serais tout simplement en face de la description du fond de la personne humaine, dans sa complexité et dans son harmonie. Bon, on va arrêter ce que j'ai dit.